Nous accueillons maintenant Christine Gaspin, qui donc travaille à l'INRA. L'INRA s'est engagée depuis un certain temps déjà dans un mécanisme d'ouverture de données et d'exposition de données. Je crois que c'est une des expériences françaises qui est connue et qui est présentée de manière très, très, très positive. Et depuis 2003, vous êtes responsable scientifique de la plateforme donc bioinformatique Genotool. Vous avez la parole.
Bonjour et merci pour cette invitation. Donc, cette présentation elle a été co-construite avec Odile Lologne et elle est issue du chantier qui est conduit à l'INRA actuellement autour de l'ouverture des données. Et donc, dans le cadre de cette présentation, eh bien, je vais vous parler... finalement des difficultés à mettre en route ce chantier et des enjeux autour de ce chantier et des résultats qui commencent à en sortir. Avant de vous parler de ce chantier, je vais faire un petit peu d'histoire hein, pour vous dire quand même que l'open access, ce n'est pas nouveau dans les sciences, au moins dans les sciences du vivant, mais je pense aussi dans les sciences de l'astronomie, de la physique. Donc vous rappelez un petit peu ce qui a changé aussi, au moins dans les sciences du vivant, et qui font qu'aujourd'hui, les problèmes se posent de manière assez cruciale. Et puis ensuite, on passera aux enjeux des données pour la recherche à l'INRA et du chantier en cours. Alors, un petit peu d'histoire hein, sur les sciences du vivant. J'ai positionné là quelques étapes qui sont, je dirais, importantes pour un bioinformaticien comme moi, et qui finalement montrent que dès que le numérique... a permis de partager les données, certaines communautés s'en sont emparées pour déjà commencer à partager leurs données. Alors, on peut faire référence à tout ce qui est du domaine de la séquence génomique, où les premières séquences sont apparues dans les années 50 et jusqu'à 70. Et... les scientifiques se sont très très vite aperçus qu'il était essentiel de pouvoir les partager justement pour produire de la connaissance et pour produire de l'innovation. Et donc, assez rapidement, eh bien, ils ont commencé à les partager, mais sous forme de dictionnaires de séquences, donc sur un format papier. Et puis ensuite, ils les ont partagés sous forme de bandes pour pouvoir les exploiter avec des ordinateurs. Et dès les années 90, avec l'ouverture d'Internet, très très vite, ils se sont mis à partager leurs données via l'Internet. Donc, ce que je voulais dire là, c'est que les scientifiques, quand ils sentent qu'il y a de la connaissance à produire en partageant ces données, ils y vont. Ils y vont. Alors, pour la plupart. Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans les années 90, hein, sont apparus aussi des entrepôts internationaux pour partager ces données, dont des consortiums se sont mis en place pour réfléchir à comment partager au mieux ces données. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était au départ la séquence de données génomiques, ça s'est étendu à d'autres types de données en biologie. Et donc, en gros, aujourd'hui, on dispose de 3 miroirs au niveau international qui sont au Japon, aux États-Unis et en Europe avec l'EBI. Donc, une organisation en miroir, une collaboration déjà internationale et une mise à jour quotidienne puisque les scientifiques pouvaient déposer leurs données dans l'un ou l'autre de ces entrepôts. Pour chaque entrepôt, évidemment, chacun va exister avec ses propres métadonnées aussi. Et donc, ils ont un format de soumission qui leur est propre et puis des outils de recherche qui permettent d'exploiter donc, ces données-là. Et très, très vite, pour que les données, pour les chercheurs récalcitrants, pour que les données soient vraiment partagées et partagées, je dirais, avec le plus grand nombre, eh bien, la condition pour publier, c'était de déposer ces données donc, dans des entrepôts internationaux. Donc très très vite, donc, dans les années 90, on avait déjà une forme d'ouverture des données, pas généralisée certes, mais en tout cas existante pour certaines communautés. Donc une production collective, un partage de données biologiques en l'occurrence, en vue de l'exploitation, et qui était donc... production gérée par à travers des consortiums internationaux. On avait donc des séquences, donc des données stockées, référencées dans ces entrepôts et un accès libre pour une réutilisation pour l'exploitation dans un objectif de valorisation ou de revalorisation. Voilà, je voulais souligner tout ça avant de démarrer. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Et même dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, finalement, c'est d'abord l'ouverture des données généralisées, mais très certainement marquée par l'explosion des technologies d'acquisition, finalement, de ces données hein, dans tous les domaines, et puis surtout par les technologies du numérique qui permettent finalement d'accélérer la mise à disposition de ces données dans la communauté. Donc, en fait, pour ce qui concerne encore le domaine de la biologie, c'est plutôt l'explosion, finalement, de ces technologies et leur démocratisation dans tous les laboratoires, avec des productions massives de données qui a fait que les choses sont un petit peu modifiées. Les esprits sont un petit peu modifiés. Pourquoi ? Parce que en 2011, par exemple, le NCBI, qui est vraiment la référence dans le domaine des entrepôts pour les sciences du vivant, a émis une alerte en disant que peut-être que dans le futur, il ne serait plus en capacité de gérer les données pour l'ensemble de la communauté internationale par manque de moyens financiers et que donc peut-être qu'il ne prendrait en charge que des organismes modèles pour la mise à disposition des données à la communauté. Donc ça a quand même fait pas mal bouger la communauté et s'est posé aussi la question peut-être d'une organisation un peu plus distribuée de la mise à disposition de ces données. Alors, très rapidement, quelques illustrations sur la droite avec le séquençage. Pourquoi des données massives ? Ça, c'est les progrès des technologies. Donc, aujourd'hui, un séquenceur peut produire jusqu'à 2 téraoctets de données en 3 jours. Hein, donc, 2 téraoctets, c'est quasiment 1000 fois le génome humain. Hein, c'est un peu moins de 1000 fois le génome humain, la séquence du génome humain, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est quand même énorme et c'est un progrès considérable en quelques jours. Je vous rappelle qu'il a fallu 10 ans pour produire la séquence du génome humain. En quelques jours, on peut produire aujourd'hui, en termes de données, donc quasiment 1000 génomes humains avec un seul appareil. Donc les coûts ont énormément chuté, évidemment, hein, puisque la paralysation du séquençage et ses progrès dans les technologies ont fait chuter ces coûts. Donc de plus en plus de données sont produites, les technologies progressent très très vite et donc produisent des données de plus en plus volumineuses. Un facteur 3 en 5 ans pour les données du séquençage. Et puis, surtout, la démocratisation fait que ces données, ces appareils, ils sont achetés un peu partout et non pas juste par des centres nationaux. Et donc, on va avoir des données qui sont un peu partout, difficilement, je dirais, trouvables. C'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas, difficilement localisables. C'est peut-être ça le meilleur mot. Et pas toujours, aujourd'hui, disponibles donc, dans les archives internationales. Donc une vraie question sur, peut-être dans ce domaine-là, pas tellement l'ouverture, mais plutôt l'accès à la donnée, du fait que cette donnée, elle est dispersée un petit peu partout. Accès et puis aussi le répertorier et stocker. Hein, donc on a vu avec le problème du NCBI. Alors évidemment, tout n'est pas comique, hein, je l'ai dit aussi un petit peu. Donc dans le domaine de l'écologie, on fait beaucoup d'observations, même si l'écologie aujourd'hui va jusqu'au MIC. Dans le domaine de la santé, on a d'autres choses aussi que le MIC. Dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de l'environnement. Donc, les données sont partout, massivement produites et sources d'innovation possibles. Alors, ce qui est important aussi de retenir, c'est que tout n'est pas que Big Data. Ça a déjà été dit ou ça le sera aussi peut-être par la suite. Donc, aujourd'hui, le Big Data, c'est quand même essentiellement la physique des particules. Ça commence à être la génomique. Et puis, là, dans la queue de la production, eh bien, on trouve aujourd'hui l'économie, les sciences sociales, qui devraient d'ailleurs, sciences sociales, assez vite, très certainement, remonter dans le haut de la production des données. Donc, en abscisse, vous avez le nombre, et puis en ordonnée, vous avez les quantités. C'est pas parce qu'on a beaucoup de données qu'on produit beaucoup de connaissances, et ça, c'est important aussi. Alors, dans le domaine du vivant, évidemment, ça génère l'espoir qu'on va réussir à intégrer toute la complexité de ce vivant en partant de la séquence génomique et en allant finalement jusqu'aux écosystèmes. Et ça génère l'espoir qu'on va donc arriver à intégrer, à modéliser et pourquoi pas donc à simuler à partir de toutes ces données, des situations qui permettront de produire donc de la connaissance dans le futur. Donc, je vous ai représenté sur la gauche donc la chaîne finalement des macro-connaissances avec des niveaux de complexité qui sont propres à chacun des niveaux, et puis même et puis au-delà de chaque niveau donc la complexité de l'intégration de l'ensemble. Donc aujourd'hui, on commence à voir des projets qui émergent. À l'INRA, par exemple, le projet Phénome, avec qui va vers une intégration des données de génomique, donc des génotypes, par exemple, d'individus, donc plusieurs des populations différentes d'individus qui vont être observées au champ ou en serre et dans des conditions qui vont être modifiées, dans des conditions donc, qui varient. Et donc, l'objectif, c'est de mieux connaître comment réagit une plante, un animal, identifier les composants essentiels à des mécanismes bien particuliers et donc d'être en capacité donc, de pouvoir les expliquer et les utiliser pour améliorer donc, les plantes et pouvoir répondre, par exemple, au changement climatique. Voilà, les enjeux sont quand même extrêmement importants. On commence aussi à voir, ça n'a pas tellement été évoqué, mais ça le sera peut-être aussi par la suite, des environnements de recherche virtuelle dont l'objectif, c'est d'accéder à distance à des données et puis de produire des outils qui vont permettre aussi d'exploiter ces données de manière virtuelle à travers une seule entrée. Un autre élément donc, du contexte pour le chercheur, c'est la donnée qui devient un produit de la recherche, référençable, citable et évaluable. Donc ça, c'est important aussi pour le chercheur et c'est peut-être une incitation justement à finalement améliorer ses pratiques dans la gestion de ces données. Donc en résumé, des technologies donc, d'investigation diversifiées, complémentaires, qui permettent des approches globales et intégratives pour appréhender la complexité des mécanismes du vivant. Donc ça, c'est un enjeu scientifique. Des approches nécessairement pluridisciplinaires et collaboratives. Le chercheur tout seul n'y arrive pas, ou n'y arrivera plus, notamment dans les questions d'approche globale. Des masses de données considérables et dispersées qu'il va falloir gérer, via des infrastructures qu'il va falloir localiser via le web, très certainement, le web sémantique aussi. Donc je lance des mots comme ça. Et puis donc gérer aussi par la même occasion une accélération sans précédent donc, dans l'acquisition des données dans tous les domaines. Alors, pour répondre pour faire face à ces enjeux, qu'est-ce qu'on a fait à l'INRA et à quoi s'intéresse ? Alors, on peut peut-être résumer cette seconde partie en enjeux internes et en enjeux externes. Alors, je dirais qu'il y a quatre enjeux majeurs en interne à l'INRA. Donc, d'abord, dans la production des données. Aujourd'hui, on parle d'ouverture des données, mais il y a un premier enjeu qui est dans l'acquisition de données au meilleur niveau, c'est-à-dire que quand on fait l'acquisition de données, eh bien, aujourd'hui, il faut se poser des questions de technologies utilisées. Et ces technologies, il faut bien sûr qu'elles ne soient pas obsolètes. Et comme elles évoluent très, très rapidement, il faut être aussi en capacité de les renouveler. L'INRA produit beaucoup de données. Et donc, il y a un enjeu aussi en termes d'infrastructure sur les acquisitions de données. Deuxième enjeu, la gestion des données en lien avec la diversité et le cycle de vie des données. Donc ça a été évoqué tout à l'heure. Donc l'importance finalement de bien maîtriser ce que l'on va faire de ces données, de la production jusqu'à l'ouverture, avec évidemment intégrer le plan de gestion des données. Le chercheur n'a pas l'habitude et donc il a besoin d'être accompagné pour cet objectif. Troisième enjeu, l'analyse des données. hein, pour intégrer au mieux la complexité du niveau, des niveaux du vivant. Donc on a parlé de fouilles de données dans le premier exposé. Je pense que c'est un enjeu majeur. Mais il n'y a pas que la fouille de données, mais en tout cas, la fouille de données en fait largement partie. Et enfin, donc, l'ouverture et le partage de données très en lien avec la gestion. Donc, par la suite, je ne vous parlerai pas d'acquisition de données, je ne vous la parlerai pas d'exploitation des données, mais je vous parlerai plutôt de ce qu'on fait autour de la gestion et du partage des données. Donc, le partage des données, c'est un chantier donc, qui a démarré suite à la remise du rapport du Conseil scientifique de l'INRA en 2012. Donc, ce rapport émet un certain nombre de recommandations que je vous listerai tout à l'heure dans la diapositive suivante. Et donc, la remise de ce rapport a donné lieu, fin 2012, à une première proposition de politique qui n'a pas encore été communiquée, mais qui se décline en 11 principes pour mieux gérer et partager les données de la recherche. En avril 2013, donc, on a lancé ce chantier pour réfléchir à plusieurs niveaux, au niveau des données, essentiellement avec les chercheurs et les ingénieurs en charge des données, au niveau juridique aussi, comment finalement on peut parler de propriété sur les données ou pas. On a lancé quelques chantiers techniques autour du référencement des données, autour du plan de gestion des données, pour essayer autour du web sémantique, sur ces aspects-là. Et puis, il a été aussi lancé plus largement un chantier compétences autour du numérique. Donc, les recommandations à l'issue de ce rapport, c'était un, de définir une politique claire de l'établissement et de la communiquer. Ça peut être une politique nationale et partagée entre établissements aussi. Je pense que ce serait légitime et plus naturel. La mise en place d'un comité d'évaluation des données produites par l'INRA, ça fait référence à la question que j'ai posée tout à l'heure aussi. Je ne suis pas sûre qu'on soit en capacité de conserver toutes les données que l'on produit, surtout quand elles sont en grosse quantité. Alors on peut parler de données brutes ou de données déjà traitées, mais le comité d'évaluation des données a, à notre sens, un rôle stratégique assez important à jouer pour justement évaluer les données sous toute forme d'évaluation qu'on peut leur affecter. Évidemment, s'impliquer dans des comités internationaux pour contribuer, pour participer à la définition des standards et puis, bien sûr, pour les maîtriser le mieux possible et le plus rapidement possible. De développer un portail d'accès à un ensemble de ressources distribuées. Donc, on parlera un peu plus tard d'annuaire des données. De prendre en compte le cycle de vie des données dès l'élaboration des projets de recherche. Donc là, c'est les bonnes pratiques pour le chercheur. Y penser tout de suite et en amont et pas a posteriori. De définir un cahier des charges pour les plateformes, aussi bien les plateformes de production de données que les plateformes de gestion de ces données. De doter l'INRA d'infrastructures dimensionnées pour les stockages et les calculs haute performance, que ce soit en interne ou en externe, puisque ces données, il faut les conserver. Et puis, il faut savoir les exploiter. De s'engager dans une politique de gestion des compétences répondant aux besoins en émergence. Il faut savoir les traiter aussi. Ça ne sert à rien de produire ou d'avoir accès à des données si on ne sait pas les exploiter. Et enfin, donc, de conduire une réflexion inter-organisme pour promouvoir une politique nationale et locale en matière de gestion et de partage des données. Bon, du bon sens, quoi. Alors, les données à l'INRA, donc, quand le chantier a démarré, on a identifié trois grands ensembles de données. Des données omiques et ressources génétiques, des données d'observation et d'expérimentation, et puis des données textuelles et d'enquête. Donc, l'INRA couvre ces grands ensembles de données. Donc ici, vous avez quelques illustrations avec des projets qui sont développés dans le cadre de consortiums internationaux. Donc le projet 1000 génomes bovins, la WIT Initiative, le projet Phénome, le projet NAE dont vous entendrez peut-être parler de manière un peu plus spécifique tout à l'heure. Et finalement, ces projets-là sont dans la mouvance et dans la... dans la direction que l'INRA souhaite prendre, de s'intégrer dans les consortiums et d'ouvrir ces données et de les partager. Alors, je vous ai redessiné là le petit graphique. Pour nous, à l'INRA, finalement, dans la queue de distribution, aujourd'hui, on va trouver l'écologie avec plutôt les données d'observation, l'environnement, l'économie, les sciences sociales. Dans une production, on va dire, qui prend un peu plus d'ampleur en termes de volume, plutôt tout ce qui est phénotypage avec l'imagerie, et qui devrait, je pense, dans les années qui viennent, passer au-dessus de la génomique, qui pour l'instant est un peu champion dans la production des données. Les questions qui étaient étudiées par groupe disciplinaire, donc, c'était l'écosystème informationnel. Aujourd'hui, pour chaque type de données, chaque grand ensemble de données, donc, quels sont les entrepôts qui sont utilisés, donc, soit en interne, soit en externe, ou bien associés à des journaux sur les données, quels sont les vocabulaires, les standards qu'on utilise. Et donc, l'objectif, c'était par groupe donc, de décrire et d'analyser, d'avoir un regard un peu critique sur ces éléments-là. D'essayer d'identifier, quand c'était légitime, s'il y avait des données qui pouvaient constituer un patrimoine à pérenniser. Donc ça, c'était important pour des questions, je dirais, d'archivage et de conservation sur le long terme. Quels étaient les créneaux de données originales pour se positionner à l'international, donc, et avoir une vision un peu stratégique aussi du partage. Quelles étaient les attentes, alors essentiellement par les chercheurs, en termes d'offres INRA, comment peut-on à l'INRA accompagner au mieux le chercheur pour entrer dans cette ouverture pour aller vers cette ouverture des données. Est-ce qu'on peut proposer des projets pilotes afin, au moment où les services seront ouverts, donc enfin, avant d'ouvrir les services, de tester finalement cette offre de services en vue de l'exploitation des données. Alors très rapidement, donc un besoin en nouveaux services. Hein, donc je vous en cite quelques-uns, je ne peux pas tout vous citer là. Donc l'annuaire est ressorti comme étant un besoin important pour identifier déjà le patrimoine numérique de l'INRA sur les données. Et déjà avoir un outil de partage en interne, qui ensuite pourrait être ouvert en externe, certes, mais en interne. Un entrepôt, besoin d'entrepôt pour stocker ces données, ces jeux de données, et puis les méthodes de données associées. Plan de gestion de données, on en a parlé tout à l'heure. Référencement de la donnée, pour référencer soi-même des données qui seraient donc gérées par l'INRA. Et enfin, donc, gérer l'ouverture des systèmes d'information de l'INRA, au plan technique et juridique. Alors, quelques exemples de livrables hein, donc, aujourd'hui qui sont disponibles. Donc, le plan de gestion des données, pourquoi le rédiger, comment le rédiger, avec quelques illustrations dans les différents groupes de données. Donc, ces illustrations sont en cours d'élaboration, mais ça, c'est pour donner quelques exemples aux chercheurs pour qu'ils ne soient pas complètement dépourvus devant le caractère un peu générique du plan de gestion de données. L'attribution des DOI, donc ça, on sait faire maintenant. Donc c'est l'IST à l'INRA qui prend en charge ce service-là, donc qui permettra de faciliter l'archivage et l'accès donc, aux ressources numériques de l'Institut. Un guide juridique. Donc là, on a travaillé en interorganisme et donc les personnes qui ont du groupe juridique ont produit un guide juridique. Alors, ils ont un peu explicité leur position sur ce guide juridique. Donc, je peux vous le lire. À défaut d'un cadre légal clair, mais là, on a le sentiment qu'il y a des choses qui commencent à arriver. Sur la question de l'open data, ce guide a pour vocation d'accompagner les agents des établissements concernés dans une démarche d'ouverture raisonnée des données de recherche. Enfin, portail annuaire entrepôt institutionnel, en cours d'instruction actuellement. Donc partager, donc déjà un bénéfice interne avec différentes modalités aujourd'hui et puis surtout la nécessité d'avoir une vision aussi stratégique du partage et bien sûr se mettre en posture d'aller chercher les données ailleurs. Donc aujourd'hui, les enjeux en externe dont je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de s'inscrire dans le partage à l'international. Un moyen de faire ça, c'est de rejoindre des comités éditoriaux, des revues sur les datasets, par exemple, et de participer, bien sûr, aux initiatives internationales de mise en place de standards. pour conclure, donc, je vous ai donc énoncé quatre enjeux majeurs en interne et j'en ai discuté essentiellement deux, donc je pense que les deux autres sont largement à développer. Mais bon, ce n'était pas tellement le lieu. Et enfin, je voulais souligner la diversité et la complexité, finalement, de cette ouverture des données en lien avec donc cette diversité des acteurs qui sont impliqués aussi bien, enfin, sur tous les plans, en tout cas, au sein de notre institut. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cette très très intéressante présentation et je crois qu'il couvre un grand nombre de questions que se posent les personnes qui veulent mettre en œuvre ce type de démarche. Et je pense que l'exemple, comme je le disais tout à l'heure, de l'INRA est tout à fait remarquable. Qui souhaite poser une question, deux questions ? Oui, c'est vrai qu'hier vous aviez été un peu brimé. Alors,
je ne suis pas brimé, mais comme il n'y a personne, je pense que j'ai vraiment des questions. Il y a des choses qui m'intéressent. C'était absolument remarquable. D'abord, juste une remarque et ensuite une question. Vous avez participé à quelque chose d'extrêmement important qui est dans le cadre de Research Data Alliance. Et l'INRA, en particulier Odile Hologne, a participé à la rédaction d'un petit rapport, mais génial, qui s'appelle Data Harvest, que vous trouvez sur le site de la DG Connect. Je le recommande à tout le monde. C'est très pédagogique, c'est très, très bien fait. Et on retrouve naturellement toute l'expertise que vous avez dans le domaine. Et le Data Harvest, c'est dans toutes les disciplines. C'était en fait un groupe de travail qui mélangeait des chercheurs de toutes les disciplines. Maintenant, j'ai une question. Vous avez parlé du cycle de vie des données. La question, c'est est-ce qu'une donnée est éternelle ? Parce que je trouve qu'il y a quand même il faut faire de la curation et admettre que certaines données, ça c'est mon point de vue, si vous voulez, doivent disparaître. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens de garder ad vitam aeternam tout. C'est trop facile. Donc voilà, je voulais un petit peu vous demander, est-ce que les données meurent un jour ?
C'est une question assez difficile parce que je dirais que les données vont peut-être mourir avec les standards si elles ne sont pas correctement archivées et elles vont mourir par manque de moyens justement aussi en termes d'infrastructures pour pouvoir les conserver. Alors est-ce qu'on doit laisser vivre toutes les données ? Je dirais que celles qu'on peut régénérer facilement, peut-être pas. Voilà, ça c'est un premier point. En tout cas, tant que le jour où elles coûteront moins cher à régénérer qu'à stocker, c'est pas la peine de les conserver. Pour les autres, la question est un peu difficile parce que certaines communautés pourraient vouloir jeter leurs données. On a ce cas-là à l'INRA. Par exemple, il y a une plateforme qui produit à tire-larigot des séquences de génome de streptocoques qui les utilise pour une certaine raison et qui ensuite les jette. Alors que d'autres communautés seraient très intéressées pour réutiliser ces séquences-là. Enfin, d'autres communautés, c'est la même communauté, mais en tout cas, c'est d'autres thématiques qui seraient très intéressées pour utiliser ces données-là. Donc, je pense que la question, on peut répondre à cette question, mais au cas par cas. Et je pense qu'il faut en tout cas les conserver suffisamment longtemps pour être sûr, en tout cas, qu'elles ne seront pas intéressantes pour une autre communauté ou qu'on n'aura pas besoin d'y retourner pour vérifier quelque chose. Parce qu'il y a un autre point, il y a des données qui peuvent être exploitées avec les outils d'aujourd'hui, mais qui ne pourront pas être exploitées avec les outils de demain. Donc il faut aussi se poser ces questions de la durée, de la capacité qu'on va avoir à exploiter la donnée. Et inversement, il y a des données qu'on peut mal exploiter aujourd'hui, typiquement les données d'image, et que peut-être on saura très très bien exploiter dans quelques années. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas, c'est pas une réponse... je ne sais plus comment on dit, mais voilà. Mais voilà, donc j'essaie de répondre au mieux. Ce que je dis, c'est que c'est une question pas facile, et c'est pour ça qu'on avait, à un moment donné, imaginé la création d'un comité donné. Voilà, ça fait partie de la stratégie de savoir si on conserve ou pas ces données.
Merci beaucoup, Christine Gaspin. Et je propose que nous nous arrêtions là.